Alors, c'est pour moi un très très grand plaisir que d'introduire ce soir le livre de Stéphanie Lachaud. Stéphanie Lachaud est une de nos jeunes universitaires. Elle a été élue en effet comme maître de conférence à l'université de Bordeaux 3 au mois de juin dernier, à la suite donc d'une thèse sur le vignoble du Sauternay, une thèse qu'elle avait préparée sous ma direction et que nous nous sommes empressés de publier à la Fédération historique du Sud-Ouest, tant le jury avait été louangeur à son sujet. Donc c'est pour moi un très très grand plaisir, parce qu'elle s'identifie aussi totalement à ce renouveau de l'histoire sociale et économique à l'Université Michel de Montaigne. J'ai donc beaucoup de plaisir à l'accueillir au travers de ce premier livre sur le Sauternay moderne, histoire de la vigne, du vin et des vignerons des années 1650 à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, pour commencer, une première question, vous parlez du Sauternay moderne pour les XVIIe et XVIIIe siècles, mais le vignoble du Sauternay existait-il tout simplement en tant que tel? Ce terme apparaît-il dans les archives que vous avez dépouillées pour cette époque-là?
Alors en fait, le terme même de Sauternay est effectivement un petit peu anachronique, puisqu'il n'existait pas en tant que tel pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Ce terme n'est né qu'avec le mouvement des appellations d'origine. En effet, à partir de 1855, et l'exposition universelle de Bordeaux a été définie une région de Sauternes, composée de 5 paroisses, Sauternes, Baume, Barsac, Prégnac et Fargues. Par la suite, au début du XXe siècle, un second mouvement d'appellation a été peu à peu mis en place, et cette définition même du Sauternay a posé question. Certains étaient partisans d'un Sauternay réduit aux 5 paroisses de 1855, d'autres étaient davantage partisans d'un Sauternay élargi, très élargi, qui pouvait aller jusqu'à Saint-Pardon-de-Conques, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont. Quoi qu'il en soit, de ces différentes appellations et de ces différents partis pris, même si le terme n'existait pas encore pour les XVIIe et XVIIIe siècles, il nous a semblé pertinent de l'utiliser, puisqu'il mettait un mot sur une réalité qui, elle, préexistait déjà. En effet, ces paroisses constitutives donc du vignoble du Sauternay se reconnaissaient déjà une identité spécifique. En 1713, par exemple, un arrêt du Parlement de Bordeaux renouvelle une interdiction, et on nous dit que cette interdiction court déjà depuis plus de 80 ans. Et cette interdiction était la suivante. 4 paroisses de Sauternes, Baume, Barsac et Prégnac devaient conserver l'intégralité de leur production, et cette production viticole ne devait pas être mélangée à des vins venus de paroisses voisines. Ça signifie donc qu'on avait déjà conscience d'une certaine forme d'identité viticole et d'une spécificité. Donc ces paroisses, elles nous ont semblé évidentes à étudier dans le cadre donc de notre Sauternay moderne. Par ailleurs, nous y avons ajouté 2 paroisses un petit peu plus périphériques, mais qui sont constitutives de ce vignoble, à savoir Séronce et Fargues, bien entendu. Fargues, parce que c'est une paroisse aujourd'hui au cœur de l'appellation, et qui, en plus, à l'époque moderne, était une seigneurie aux mains d'Elursalus, qui avait noué alliance matrimoniale, mais aussi viticole et économique, avec de nombreuses familles installés dans le reste du Sauternay, les Sauvages à Ikem à Sauternes, ou bien la famille de Malle à Prégnac. Par ailleurs, nous avons dans notre étude choisi d'intégrer 2 autres paroisses, plus périphériques celles-ci, à savoir Pujols et Ilatz. Pujols, parce que cette paroisse portait déjà un vignoble, et une partie de ce vignoble était tenue par les Siduiraux, qui étaient seigneurs de la paroisse, d'une bonne partie de la paroisse de Pujols, et qui eux-mêmes étaient déjà possessionnés à Prégnac. Donc on avait des liens économiques et viticoles forts. Quant à Ilatz, c'était une paroisse très marquée par la forêt de pins, mais malgré tout, elle est intéressante à étudier pour les XVIIe et XVIIIe siècles, car on y voit la complémentarité essentielle entre vignobles et forêts de pins qui fournissaient un bon nombre de matériels nécessaires à la culture viticole. Donc, même si le terme est un peu anachronique, il nous a été fort utile pour désigner une réalité existante à l'époque moderne.
D'accord. Donc on entend parler de toute une série de communes que nous connaissons bien, puisque nous connaissons parfaitement cette région du Sauternais. Mais comment s'est construit le vignoble ? Pouvait-on parler d'un vignoble en Sauternais au XVIIe et au XVIIIe siècle ? Je me permets d'insister.
Alors, effectivement, l'époque moderne fut une époque de construction du vignoble. Si l'on se réfère au Moyen-Âge, le paysage du Sauternais était un paysage de polyculture, où la vigne était présente, mais de manière très diffuse, principalement installée aux abords des foyers d'habitat, dans le but de produire un vin destiné à une consommation familiale, principalement personnelle. Par exemple, en 1560, donc au début de l'époque moderne, le terrier de la maison noble du Solaire à Barsac montrait que la vigne était présente sur un peu plus de 40% des parcelles. Mais cette vigne n'était en rien exclusive. Elle était présente, mais ça ne pouvait être que quelques cèpes parfois ou une culture sous forme de joales. Ces joales, d'ailleurs, caractérise le premier temps, on va dire, de forte colonisation viticole en Sauternais, puisque le XVIIe siècle est marqué par une emprise croissante de la vigne, mais toujours sous la forme des joales. Alors les joales, j'imagine que vous connaissez à peu près ce dont il s'agit, ce sont des rangs de vigne suffisamment espacés pour qu'on y intercale entre les deux des cultures vivrières, céréales, légumineuses, légumes. Par conséquent, cette culture viticole s'étend au XVIIe siècle, mais on ne peut pas dire que le vignoble de cette époque ressemblait à ce qu'il peut être aujourd'hui, très loin de là. Malgré tout, la vigne était très présente. Un autre terrier fait dans la prévôté royale de Barsac pour les années 1625 puis les années 1660 montre que la vigne était présente sur 70% des parcelles. Encore une fois, c'est une présence importante, mais elle est diffuse. Elle n'est pas exclusive, bien loin de là. Le XVIIIe siècle, quant à lui, marque un deuxième temps essentiel dans cette évolution, puisqu'on assiste à une densification des plantations en vigne. On assiste à un doublement des joales, par exemple, c'est-à-dire que on resserre les rangs de vigne. Et c'est la première fois dans les archives, au XVIIIe siècle, que l'on peut voir apparaître des parcelles de vignes unis, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire où il n'y a cette fois-ci que cela. Et c'est véritablement donc dans ce XVIIIe siècle, et même dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qu'on assiste vraiment à une densification de la culture viticole. Toutefois, il faut ajouter une précision, c'est que c'était très inégal. D'un domaine à l'autre, on pouvait avoir des densités viticoles fort différentes. Par exemple, la maison noble du Pont, à la fin du XVIIIe siècle, avait à peu près 54% de ses terres cultivées en vigne. En revanche, le domaine de Madame Castin à Prégnac, elle, était en situation de monoculture quasiment, puisque plus de 90% des terres étaient en vigne. Donc on voit que c'est encore un vignoble en construction, même si le mouvement qui s'est amorcé au XVIe siècle et qui s'est ensuite véritablement enclenché au XVIIe et XVIIIe siècle, a permis la construction d'un espace très marqué par la culture de la vigne.
Oui, alors vous parlez d'un espace en construction, de construction d'un vignoble par les hommes, mais comment comprendre l'installation d'un vignoble appelé à devenir aussi prestigieux autrement que par le terroir ?
Alors effectivement, le terroir, c'est toujours, c'est véritablement ce que l'on invoque souvent pour expliquer la naissance d'un vignoble prestigieux en un lieu donné. Alors il ne faut pas nier son importance. Effectivement, le Sauternais se caractérise par un terroir extrêmement favorable, que ce soit la donne géologique, avec un terrain de graves constitué donc de cailloux qui permettent un bon drainage des sols et qui sont connus pour réfléchir aussi les rayons solaires et favoriser la maturation du raisin. Il y a également en Sauternais un modelé peu homogène, composé de nombreuses petites collines qui constituent comme un étagement jusqu'à la Garonne et qui favorisent l'implantation viticole. Par ailleurs, la douceur du climat océanique, mais quand même modérée par l'éloignement de l'océan, offre une douceur qui limite les gelées d'automne et de printemps. Donc ces éléments naturels sont extrêmement favorables. À ces éléments proprement caractéristiques de l'ensemble des graves bordelaises s'ajoute un élément très local qui est le Siron. Cette rivière prend sa source à peu près 80 km plus bas dans les Landes. Elle est assez froide puisqu'elle court sous la forêt de pins. Et une fois qu'elle arrive en Sauternais, la forêt disparaît pour ainsi dire, et donc l'eau froide se retrouve réchauffée assez brutalement par les rayons solaires et dégage des brouillards diffus, nombreux en automne principalement, qui favorisent le fameux champignon Botrytis cinerea, autrement appelé pourriture noble. Donc l'ensemble de ces éléments constitue effectivement une donne naturelle essentielle pour expliquer la naissance d'un vignoble prestigieux en ce lieu. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour expliquer la naissance de ce vignoble. S'ajoute à cela également l'influence bordelaise déterminante à l'époque moderne. Le développement du Sauternais est intimement lié à la capacité de communication avec Bordeaux. On est à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux, mais les communications sont facilitées par la navigation sur la Garonne. On peut donc expédier le vin, mais on peut aussi faire acheminer des denrées nécessaires à la viticulture, notamment les bois pour la construction des barriques. Par ailleurs, la proximité et les facilités d'accès avec la métropole bordelaise ont permis l'installation sur place d'urbains qui ont souhaité donc investir dans la culture viticole. Donc les données du terroir sont essentielles, mais elles ne sont pas tout à fait suffisantes pour expliquer le développement d'un vignoble prestigieux en ce lieu. Les élites bordelaises, la proximité bordelaise ont également joué un rôle déterminant dans le développement de ce vignoble.
Oui, alors justement, on a entendu tout à l'heure, vous évoquiez un certain nombre de noms, les Lursalus, les Sauvages, les Durois de Suiduiro, on pourrait rajouter les Fillot, qui sont les noms qui sont évoqués par Jefferson dans le texte qu'il consacre au Sauternais quand il passe dans la région. Alors, quelle est la place des élites, élites d'épée, élites parlementaires? Est-ce que ça se passe exactement comme en Médoc ou est-ce que c'est un petit peu différent? Et quelle est la place de la propriété paysanne au milieu de ces nobles?
Alors effectivement, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre en raison des sources dont nous disposons. Il existe assez peu de sources qui mentionnent des contenances, des superficies, qui nous permettraient alors de donner des pourcentages de répartition de la propriété foncière. Les sources que nous avons eues à traiter sont beaucoup plus, on va dire, qualitatives, c'est-à-dire qu'on peut raisonner en termes de nombre de parcelles et non pas en termes de superficie. Donc on a une propriété qui est difficile à évaluer en termes de répartition. Pour autant, les documents qui nous a été donné d'exploiter, notamment les terriers, les archives notariées, montrent que il existe une propriété paysanne caractérisée par un émiettement. C'est un ensemble de petits propriétaires de manière générale. Ces petits propriétaires sont dominés socialement par une élite nobiliaire principalement, installée en Sauternais. Cette élite nobiliaire, elle est visible par le grand nombre de maisons nobles qui existent sur ce territoire. Ces maisons nobles n'ont pas des domaines forcément extrêmement étendus, contrairement à ce qui a pu être découvert dans d'autres vignobles, en Champagne par exemple, où on voit que certains seigneurs possèdent une domination sur un village ou deux villages entiers. En Sauternay, les seigneurs ont une domination foncière plus réduite sur une petite partie d'une paroisse par exemple. À Sauternes, si on reprend cet exemple, il existait pas moins de 3 seigneurs différents qui se répartissaient donc la domination de la paroisse. Les sauvages d'Iquem, les sauvages de la Motte d'Assaut et les seigneurs engagistes du roi. Donc on a une répartition paysanne morcelée assez émiettée et une emprise nobiliaire importante. Mais importante en nombre, mais finalement chaque propriété en tant que telle n'est pas forcément extrêmement étendue. On a un semis de propriétés nobilières. L'ensemble de ces propriétés nobilières a pour autant un point commun essentiel, c'est la répartition géographique et le choix des terres qu'elles ont acquises. Je m'explique. On remarque, en examinant notamment la carte de Bellem, que la répartition de la propriété est fonction de la topographie. C'est-à-dire que les propriétaires nobles ont principalement investi les zones de croupe, de grave, donc mieux drainées, mieux ensoleillées. Alors que les zones de bas ont davantage été laissées aux mains des petits paysans. Donc on a véritablement une emprise nobiliaire et surtout un accaparement des terres les meilleures pour porter la vigne. Donc cette emprise nobiliaire est très forte et elle s'exerce aussi par un poids de la seigneurie, des droits seigneuriaux.
Alors justement, à propos de la seigneurie, comment se manifeste ce poids des structures seigneuriales en Sauternay ?
Alors, le poids des structures seigneuriales, il se manifeste surtout sur les récoltes, c'est-à-dire d'abord sur le prélèvement que chaque seigneur exerce sur les récoltes que le tenancier fait dans sa parcelle. Le champart, donc la part de récolte qui est prélevée, était élevée. Ça pouvait aller du cinquième de la récolte jusqu'à même la moitié. Le plus fréquemment, le taux de prélèvement était du quart ou du tiers. Mais c'est quand même un prélèvement important sur la propriété paysanne. Par ailleurs, les seigneurs guidaient fortement la viticulture. C'est-à-dire qu'il demandait qu'un certain nombre de modalités culturelles soient respectées. Par exemple, un contrat de 1765 obligeait un vigneron de Prégnac, qui prenait une terre en pin, à la planter de bons plants blancs, de bonnes vignes blanches, et à entretenir la vigne en bon père de famille. Ce contre quoi il devait ensuite reverser au seigneur un tiers des fruits qu'il récolterait. Donc on voit que petit à petit, les structures seigneuriales investissent beaucoup la viticulture et ont permis de la moderniser, de lui faire prendre le chemin des innovations.
Alors en termes viticoles, justement, quelles sont ces innovations caractéristiques de l'époque moderne et finalement, quel type de vin produisait-on à cette époque-là en Sauternay ?
Alors effectivement, s'il nous était donné de goûter le produit des vendanges des années 1700-1750, ce serait certainement un résultat assez différent de ce qui peut exister aujourd'hui. On produisait très certainement à cette époque des vins blancs doux, mais probablement pas des vins blancs liquoreux. Alors ces vins blancs doux sont produits grâce à la découverte d'abord de la pourriture noble. Longtemps, on a entouré la découverte de cette pourriture noble de légende, au XIXe siècle principalement. Édouard Ferré, par exemple, en 1874, disait que la pourriture noble était une pratique qui datait d'une vingtaine d'années. De la même manière, à la Tour Blanche à Beaume, le négociant propriétaire Fock aurait, selon la légende, attendu une période de pluie assez longue en 1836, et une fois cette période de pluie achevée, il aurait récolté donc des raisins qui auraient pourri sur le cep. Donc on voit bien que ces histoires sont un petit peu séduisantes mais fausses, d'autant que la pourriture liée à la pluie n'a rien à voir avec la pourriture du botrytis. Et elles sont fausses parce que les archives montrent que dès le XVIIe siècle, on retardait le plus possible la date des vendanges. En 1666, le 4 octobre 1666 par exemple, un acte notarié est passé entre François de Sauvage d'Yquem et ses tenanciers. Et cet acte, il est vraiment révélateur des pratiques. C'est-à-dire que c'est une réponse de François de Sauvage à ses tenanciers qui lui demandaient l'autorisation de vendanger. C'était ainsi que cela devait se faire. Et François de Sauvage refuse. Il refuse et dans sa réponse, il motive donc sa réponse en disant « Mes voisins de Sud-Huirau n'ont pas vendangé et il est d'usage à Sauternes et à Beaume de ne pas vendanger avant le 15 octobre, en 1666 ». Donc, on voit bien que la découverte de la pourriture noble, ou du moins des vendanges tardives, n'est pas liée au XIXe siècle, mais probablement une innovation du XVIIe siècle. Par ailleurs, à cette nécessité de la pourriture noble, quand on veut produire un liquoreux, s'ajoute la pratique des tris successives. Or, les archives sont peu loquaces à ce sujet. En 1716, l'intendant de Bordeaux, Lamoignon de Courson, déclare dans un rapport qu'il fait sur la culture de la vigne, dans la généralité, qu'on procède à plusieurs récoltes et qu'ainsi les vendanges peuvent durer jusqu'en décembre. Mais au-delà de cet témoignage du début du XVIIIe siècle, les archives notariées, éventuellement familiales, ne livrent aucun témoignage à ce sujet. Ce n'est que dans les années 1770 qu'un mémoire de culture de la famille de Fillot mentionne que l'on procédait alors à 4 tris successives. Donc, on peut considérer que la méthode des tris successives a été introduite plus tardivement que celle des vendanges tardives, probablement dans le courant du XVIIIe siècle. À ces innovations liées à la récolte s'ajoutent des innovations liées au travail du vin. D'une part, le soutirage du vin pour éliminer les lies, les impuretés qui favorisent la perte du vin. À celle-ci s'ajoute également la pratique de louillage des barriques, c'est-à-dire on refait le niveau régulièrement pour ne pas que l'air corrompe le breuvage. Cette pratique des soutirages, elle existe elle aussi depuis au moins le XVIIe siècle, puisque dans les années 1650, à Yquem, François de Sauvage dit qu'il pratiquait déjà plusieurs soutirages des barriques de sa récolte. Ces soutirages, ces ouillages réguliers ont permis petit à petit d'envisager un éventuel vieillissement du vin. Alors ce vieillissement du vin, il faut quand même savoir qu'on le fait à cette époque principalement par défaut, c'est-à-dire essayer de ne pas perdre les invendus. Le vieillissement du vin n'est pas un but en soi à l'époque moderne. C'est vraiment comment faire pour garder une récolte, la conserver le plus longtemps possible. Ce vieillissement, il est possible au XVIIIe siècle. Il commence à avoir lieu au XVIIIe siècle et principalement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ça s'explique par le caractère plus automatique de l'utilisation de barriques en mérin de chêne. Au siècle précédent, on conditionnait le vin tantôt dans des barriques en châtaignier, tantôt dans des barriques en chêne, pas forcément neuves d'ailleurs, parfois même qui avaient beaucoup servi. Donc on avait un conditionnement beaucoup plus aléatoire et moins propice à la conservation du vin. Le XVIIIe siècle, surtout dans les propriétés nobiliaires, se caractérise donc par l'utilisation beaucoup plus importante du mérin de chêne dans la tonnellerie. Donc on voit qu'au fil de ces deux siècles, le vin pouvait gagner en qualité grâce à ces diverses innovations. Et c'est vraiment une étape importante dans le devenir du sauterne.
Donc le vin acquiert progressivement une meilleure qualité, mais quand on sait que les consommateurs influencent beaucoup l'évolution d'un produit, quels sont les principaux amateurs de ces blancs doux? Il y a d'ailleurs dans le livre un certain nombre de cartes qui sont véritablement très bien réalisées, qui sont de très belles cartes. Il y en avait d'autres d'ailleurs dans la thèse d'origine, mais les éditeurs sont ce qu'ils sont, ils ont obligé à comprimer un petit peu. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de commercialisation?
Oui, effectivement, les consommateurs influencent beaucoup le devenir d'un produit. Et la commercialisation du vin de sauterne, on peut la découvrir à partir d'actes notariés, de livres de raison et de registres de négociants. Et à partir de ces documents, il apparaît que... On a deux types de commercialisation, une commercialisation d'abord française et locale et régionale, c'est-à-dire l'envoi de vin dans les villes proches, que ce soit Langon ou plus encore l'approvisionnement de Bordeaux. Ces ventes françaises s'expliquent soit par la proximité géographique, comme on vient de le dire, soit également par le réseau des connaissances. Par exemple, les vins de Fillot, à la fin du XVIIIe siècle, sont exportés dans tout le sud-ouest, depuis La Réole jusqu'à Mont-de-Marsan et Sarlat, et même jusqu'à Limoges. Donc vraiment, la proximité géographique l'a joué beaucoup. Mais un petit peu plus étonnant, ces vins étaient envoyés aussi à Douai ou à Besançon. En aucun cas là, on ne peut invoquer le côté pratique du transport. Ça s'explique davantage par le réseau relationnel, puisque les Fillot faisaient partie du Parlement de Bordeaux et que les villes de Douai et de Besançon portaient également un Parlement, et certainement que les échanges de correspondance entre parlementaires ont favorisé les échanges et les envois de vin. Donc, on a une diffusion liée à la géographie et au réseau des connaissances. Ça, c'est pour les exportations françaises. Ce à quoi, d'ailleurs, je pourrais rajouter, de nombreux envois aussi en direction de la Bretagne, puisque là, il y a quand même une proximité liée aux accès maritimes et à la nécessité d'envoyer du vin dans cette région qui n'en produit pas et qui concentre de nombreuses garnisons militaires. Donc voilà un certain nombre d'éléments concernant la diffusion du vin en France. Le plus notable peut-être, ce qui a peut-être le plus influencé le devenir du sauterne, ce sont davantage les exportations à l'international et en Europe du Nord. Il est assez connu que les Anglais étaient fort amateurs de vin rouge et qu'ils ont beaucoup œuvré dans le développement et l'essor du Médoc. Les Anglais n'apparaissent pas comme clients du Sauternay, mais au XVIIe siècle, ce sont les Hollandais qui tiennent lieu de clients privilégiés. Les Hollandais viennent à Bordeaux chercher le vin, le consomment, mais aussi le redistribuent en Europe du Nord. Donc, on a des liens privilégiés avec la Hollande. Le problème, c'est qu'au tournant du XVIIIe siècle, les difficultés politiques de Louis XIV avec la Hollande ont beaucoup entravé le commerce du vin. Les Hollandais ne venaient plus à Bordeaux chercher le vin. En revanche, les clients souhaitaient, notamment d'Europe du Nord, souhaitaient malgré tout en consommer. Donc des navires sont venus de contrées un petit peu plus lointaines, de la Baltique, de la Hanse, chercher le vin à Bordeaux. C'est la raison pour laquelle, au XVIIIe siècle, les principaux clients du sauterne sont approvisionnés par des navires qui viennent de Hambourg, de Brême, d'Oslo ou de Stockholm. Donc on a un réseau commercial qui est franchement dirigé vers l'Europe du Nord et les ports de la Baltique, de la Hanse, redistribuent ensuite. C'est vraiment le plus gros pôle des exportations. À cela s'ajoutent ensuite des exportations plus rares, mais intéressantes à noter pour comprendre aussi la renommée de ce vin qui commence à se construire. Quelques exportations jusqu'en Russie et d'autres fort connues, bien que très peu nombreuses, jusqu'en Amérique, jusque dans l'Amérique de Jefferson. Donc on a véritablement un ensemble de circuits commerciaux qui se juxtaposent et qui permettent aux vignobles du Sauternay d'exporter à travers le monde un vin et petit à petit aussi une renommée.
Alors nous sommes actuellement en période de vendange et l'on sait combien le résultat d'une récolte peut être aléatoire aujourd'hui encore. Qu'en était-il au XVIIe, XVIIIe siècle? Je me souviens de ces livres de raison qui mentionnent systématiquement le contexte climatique, preuve que c'était véritablement une préoccupation majeure de ces propriétaires. Vivait-on facilement de son vin en Sauternay au XVIIIe siècle?
Alors effectivement, toutes les données climatiques sont déterminantes à l'époque moderne. Certains notaires, par exemple, mentionnent dans leurs liasses les accidents climatiques. Les livres de raison en attestent à chaque fois. Les curés, parfois, sur les registres paroissiaux aussi mentionnent des gelées, des inondations. Donc tout ce qui peut perturber les récoltes de vin. Et effectivement, l'époque moderne est ponctuée d'un bon nombre d'accidents. Le plus marquant de ces accidents étant le fameux hiver 1709-1710, au cours desquels beaucoup de vignes du Bordelais et du Sauternay ont été gelées. Et cet épisode malheureux, a perturbé la production viticole pendant plusieurs années, le temps de reconstruire une bonne partie du vignoble. Donc effectivement, ces accidents climatiques fréquents rendent aléatoires les revenus que l'on peut tirer de la culture de la vigne. C'est la raison pour laquelle on explique la permanence au XVIIIe siècle encore, malgré les réseaux d'exportation qu'on vient de définir, des joules et la permanence de cultures vivrières intercalaires. Et ce côté aléatoire des revenus viticoles était plus durement ressenti par les paysans que pour la noblesse. Mais pour la noblesse également, on constate que le vin n'est jamais le seul pôle de revenus. Et plus encore, n'est pas forcément le pôle le plus important des revenus dans une famille. Pour la famille de Lursalus, par exemple, en 1752, une déclaration de revenus est établie. Eh bien, il apparaît que les terres du Sauternay rapportèrent 15 000 livres tournois, somme conséquente, mais finalement qui ne représentait alors que 36% de l'ensemble des revenus de la famille pour cette année-là. Les autres revenus étaient composés de charges, de pensions, mais aussi d'autres domaines, notamment celui d'USA, et d'autres types de cultures. Par conséquent, il apparaît que vivre de son vin en Sauternay restait encore relativement aléatoire, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de producteurs, quels qu'ils soient, diversifiaient en général leurs sources de revenus. Par ailleurs, on peut ajouter à cela qu'un bon nombre de paysans possédaient une petite terre, en vigne, en joual le plus souvent, mais qu'ils trouvaient généralement à s'employer dans d'autres domaines de manière à compléter les revenus. Donc on voit combien ce n'était pas forcément évident de pouvoir vivre du produit viticole à l'époque moderne.
Alors cette évolution vers un espace qui est de plus en plus tourné vers la production viticole, comment s'est-elle finalement concrétisée dans le paysage? Et si l'on se rend aujourd'hui en Sauternay, quels sont les signes de cette histoire? Quels signes de cette histoire y découvre-t-on?
Alors, les signes de cette histoire, on les voudrait parfois un petit peu plus nombreux, notamment pour les maisons paysannes, vigneronnes par exemple. Quand on parcourt aujourd'hui le Sauternais, il est assez difficile, voire impossible, de trouver une maison du XVIIe siècle qui soit toujours dans le style de ce qu'elle était. Donc pour connaître aujourd'hui ce qu'était l'habitat paysan, vigneron, nous avons recours aux sources notariées, aux inventaires après décès, aux contrats de construction par exemple. Et il apparaît au fur et à mesure du dépouillement de ces sources que les habitats se sont adaptés progressivement à la spécialisation viticole. De manière simple, la maison type du Sauternais du XVIIe et du XVIIIe siècle était composée d'une ou deux pièces à vivre et ensuite d'un appentis sous lequel était abrité le matériel vinaire. Au fur et à mesure du siècle, de l'évolution des XVIIe et XVIIIe siècles, il apparaît progressivement une spécialisation de ces fonctions viticoles dans l'habitat paysan. On a de plus en plus dans les inventaires, par exemple, la mention d'un chai et d'un cuvier. Alors parfois, les fonctions ne sont pas toujours bien respectées. On peut trouver dans un chai un pressoir et on peut trouver dans un cuvier des barriques avec du vin en attente. Pour autant, on voit petit à petit l'adaptation de l'habitat et des bâtiments à la spécialisation viticole. Cette adaptation, elle est encore plus nette, et on en a cette fois-ci bien plus de traces aujourd'hui, elle est bien plus nette dans les châteaux viticoles. Les châteaux viticoles du Sauternais ont pour beaucoup été bâtis au cours de cette période décisive des XVIIe et XVIIIe siècles, parfois même un peu avant du XVIe siècle. Beaucoup de propriétaires, contrairement au Médoc d'ailleurs, résidaient sur place, résidaient sur place une bonne partie de l'année. Ce qui explique que les pièces destinées à l'habitation étaient relativement nombreuses et importantes. Et par ailleurs, beaucoup de châteaux commencent à se doter de bâtiments d'exploitation vraiment spécialisés pour la culture viticole. À Mal, par exemple, Pierre Eutrope de Lursalus, au XVIIIe siècle, entreprend une rénovation du château et il dote le bâtiment de 4 corps de logis destinés à abriter le cuvier, les chais nécessaires à l'élevage du vin, mais aussi le logement pour les ouvriers vignerons qui travaillaient dans l'exploitation. Donc véritablement, on passe au cours de cette époque au modèle du château viticole à proprement parler, comme il a été défini par la suite. Par conséquent, le paysage que l'on peut voir aujourd'hui est très marqué par l'époque moderne, mais on retrouve principalement des héritages, parmi ces héritages, principalement les châteaux nobiliaires. En revanche, tout ce qui est maison paysanne, construction modeste, ont quasiment toutes été remaniées et transformées, et il est assez difficile d'avoir une idée de ce qu'elles pouvaient être. Donc, il apparaît que l'historien, parfois, peut être un petit peu déçu de ne pas pouvoir retrouver dans le lieu indiqué dans l'acte notarié le bâtiment qui est décrit dans le dit acte notarié. Quand on arrive sur place, hop, on trouve un bâtiment finalement très maçonné. Ça m'est arrivé, on est un peu déçu. Mais malgré tout, on est quand même satisfait de voir qu'il reste dans cet espace un dynamisme économique tourné vers la vigne et qui est né au cours de l'époque moderne.
Vous avez d'ailleurs évoqué les archives et il y a également des lacunes dans les archives. On n'a pratiquement pas de terrier en Sauternais, en dehors de celui de la prévôté de Barsac, qui n'est pas...
Qui n'est pas d'une exploitation facile, effectivement, parce qu'il n'y a aucune contenance, aucun plan...
Oui. Et de la même manière, à l'exception des archives de la famille de Lursalus, il y a relativement peu de choses dans les dépôts familiaux, tout simplement parce qu'il y a eu toute une série de mutations au fil du temps et que en Bordelais, la Révolution française a été particulièrement sévère avec la noblesse, ce qui nous explique qu'il faut absolument passer par les notaires, d'où un travail de reconstitution extrêmement long, extrêmement patient, et c'est pas le moindre de vos mérites. Voilà.
Oui, tout à fait. C'est vrai que les archives familiales sont extrêmement intéressantes quand on en trouve, puisqu'elles offrent un point de vue beaucoup, enfin, de l'intérieur de la gestion d'une exploitation, du devenir d'une famille, alors que les sources notariées sont un regard quand même très froid, juridique, sur un fait, une vente. Donc, c'est pas du tout le même point de vue. Il m'a été donné, grâce à M. Roborel de Climens, de découvrir aux archives déposées un livre de raison sur le domaine de la Mouroux à Barsac, et effectivement, il complétait très bien les archives des Lursalus qui sont à Fargues et offrait un point de vue de l'intérieur de ces domaines, de leur gestion, des aléas climatiques, des achats, des ventes, des dates de vendanges, des récoltes. Mais ce sont des documents extrêmement rares, donc on en tire ce que l'on peut comme renseignement, mais on ne peut pas forcément toujours avoir de grandes généralités à énoncer à partir de ces sources-là.
Je vous invite à applaudir une dernière fois Stéphanie, à venir vous rapprocher, discuter avec elle si vous le souhaitez.